Un débat en forêt de Jacques Mabie. Qui est le roi de la forêt? Est-ce un arbre robuste et noueux d'allure éternelle? Ou un fuet lancé plein de majesté? Est-ce un jeune arbrisseau beau comme un prince ou un arbuste cruel et couvert d'épines? Plus la trace sur laquelle j'avais osé mes pas s'avérait douteuse, plus cette curieuse interrogation m'occupait l'esprit. Comme si ce vagabondage de la pensée ne servait qu'à repousser l'inéluctable décision. Il me fallait choisir un clair pour y poser mon sac et y passer la nuit. Égaré dans un oubli humain de l'arrière-pays méditerranéen, séparé de l'agitation du monde par d'âpres embroussaillements, j'installai un campement hâtif et discret dans cet éloignement végétal où cependant je me sentis tout de suite habité pleinement. Le problème de la royauté forestière restant toutefois en suspens, le voilà qui revint me tarauder, tandis que la houle lente du soir venait couvrir les lieux, et je songeais que depuis des millénaires, jamais ce trône n'avait été occupé, jamais roi n'avait été communément reconnu. Ni la philosophie grecque, ni la poésie romantique, pas plus la scolastique médiévale que les lumières classiques n'avaient su trancher, ni même contribuer à l'avancement du débat. Mais au fait, était-ce aux hommes de choisir? Un hasard des plus littéraires me fit témoin d'une tentative audacieuse visant à résoudre définitivement cette épineuse question. Car voici que ce soir-là, dans cette arrière-forêt où mes divagations m'avaient dérouté, le monde végétal avait décidé de remédier lui-même à cette vacance du pouvoir, et tout ce qui a feuilles ou racines était là réuni pour en finir avec l'anarchie végétale. Mon errance sylvestre était-elle un sésame? Toujours est-il que je fus admis comme auditeur dans cette assemblée qui se préparait à de longues heures de débat avec confrontation d'arguments et désignation par acclamation. Le chêne vert, avec l'assurance d'un baron de haute futaie, prit le premier la parole. « Quercus ilex » s'annonça-t-il lui-même un peu pompeusement. « Et son cortège » poursuivit-il. De fait, une cour arbustive et buissonnante se pressait à son entour. Ciste, cade, laurier teint, pistachier, mais pas grand monde sous son ombre moussue et sépulcrale, sinon quelques lianes aux mœurs parasitiques et obséquieuses. Son règne, promit-il, serait celui de la justice. N'était-il pas cousin du chêne rouvre cher à Saint-Louis? Celui de la constance aussi, car feuillu en toute saison, il administrerait son royaume sans jamais de repos végétatif. Il me fit bonne impression, et pourtant ne fut applaudi que de manière assez clairsemée. Le candidat suivant, oléastre de son état, argumenta sur sa fonction identitaire. Ses limites étaient celles du milieu méditerranéen, son histoire celle des civilisations méditerranéennes, sa production celle du régime alimentaire méditerranéen. Tout en lui sentait l'amour de la patrie. Et il conclut dans une emphase mistralienne. « Âme diceu harmonioso, edicalanco soleius, de la patrie âme pioso, t'appelle, incarne te digne mi ver provençal. » Les cigales entonnèrent le refrain, par respect pour le poète surtout, mais la tradition avait trop goût de ranci pour susciter l'adhésion des jeunes pousses. L'ambiance était retombée. Mais le pain d'Alep enflamma à nouveau l'assemblée en se lançant dans un discours conquérant. Trop, sans doute, aux yeux des groupes floristiques qui comprirent qu'il n'y avait rien à attendre de sa litière acide. Le chêne liège prit à son tour la parole, dans le registre sécuritaire d'un dur à cuire. Il résistait au feu, lui. Ne se laisserait jamais dépouiller, lui. Et pour sauver la forêt, serait prêt à prendre le maquis. Ce discours guerrier agita l'assemblée et fut particulièrement conspué par les partisans de l'olivier. Les basses strates végétales profitèrent de ce moment de confusion pour entrer en jeu. Le buisson défendit ardemment sa cause, la lavande, le thym, le romarin proposèrent un triumvirat odoriférant, l'iris nain chercha l'appui des minorités visibles, bulbes et rhizomes entonnèrent « C'est nous, les damnés de la terre !» La nation végétale était visiblement trop divisée en genres, espèces et sous-espèces pour qu'un consensus émerge. À défaut de roi, si au moins nous nous mettions d'accord sur un drapeau, suggéra un vieil et sage érable venu de Montpellier. Aussitôt, la lavande proposait une sorte de bleu, la garance voyageuse un rouge vif, rejoint en cela par le chêne Kermès, qu'on suspecta de valoriser ses gales. Toutes les fleurs, rivalisant de grâce et de minauderie, voulaient voir triompher leurs couleurs. « Le blanc doit être choisi, » affirma le myrte, « car nous sommes une forêt de lumière. »« Songez que c'est la mer qui nous unit, » répliqua le pin parasol, qui penchait pour un bleu lagon, tandis que les genêts insistaient pour le jaune solaire. On tenta une combinaison, mais l'arc-en-ciel n'y aurait pas suffi. Quant au vert, qui m'avait d'abord paru évident, il ne fut même pas évoqué. Sans doute avait-il lassé. Peut-être un hymne alors, faute de drapeau, proposa un tremble dans un bruissement harmonieux. Les oiseaux, qui appartiennent autant au règne végétal qu'au règne animal, car ils sont la voix des arbres et des fourrés, proposèrent sans délai leur mélodie, les grillons leur scansion, et les cigales, encore occupées à chanter la coupe au santo, repartirent en chœur de plus belle. De la canaie, des roselières, fusèrent quelques notes de pipeau, gaies et pimpantes, mais manquant un peu de solennité. Hymne martial, ou hymne à la joie, auguste ou dansant, tout fut pesé et repesé, sans jamais aboutir. « Trouvons-nous au moins une devise ?» soupira un genévrier de Phénicie qui s'exaspérait de devoir repartir sans résultat. Quelque chose qui nous rassemble et qu'on puisse inscrire dans le marbre ou dans le papyrus, rajouta-t-il diplomate. Liberté, égalité, fraternité étant déjà prises et peu honorées par les fêtes, on chercha mieux, ce qui s'avéra impossible, sauf à user de synonymes dépréciatifs. On chercha alors différents, dans le genre aphorisme ou citation poétique. On hésita ainsi sur du Baudelaire. « La nature est un temple. » Beau programme. Quoique teinté d'une religiosité marmoréenne malvenue pour quelques athées. On tergiversa sur Lamartine. « Salut, bois couronné d'un reste de verdure !» qui avait l'avantage d'alerter l'opinion sur les risques écologiques, mais semblait un peu défaitiste. On écarta Virgile, Hugo, Char, trop archaïque, trop emphatique, trop hermétique. Et sous la pression du corps floral, on hésita un dernier moment sur Rilke. Vous, les fleurs, sœurs enfin des mains qui vous disposent, qui auraient pu emporter l'adhésion du genre humain. Vaine délibération. Nulle convergence ne se fit, malgré l'étiolement progressif des passions dans la chute du jour. La nuit déjà étendait son voile silencieux, conduisant chacun à plus de retenue. Le brouhaha devint conciliabule. Les contestations s'apaisèrent en chuchotements, et pour chacun, ce fut le moment du bilan intérieur. On n'arriverait à rien sans un peu de recul. Peut-être même fallait-il tout repenser. Les consciences, les âmes peut-être, cherchaient en elles-mêmes la sagesse qui jusqu'alors avait un peu manqué, et sans doute la trouvait-elle dans cette pacification crépusculaire, dans ces instants où tout s'immobilise, où l'air lui-même s'apesantit. Lorsque les ultimes pâleurs encore en suspension se posent au sol, dans un balancement tremblant, alors les manifestations de la vie prennent une autre forme, étrange et fluide, et la pensée une autre finesse. C'est le moment où les vérités nous pénètrent, comme une odeur lentement démasquée et dont la reconnaissance nous ravit. Je humais à lente inspiration cet avènement de la concorde intérieure, accoudé sur mon sac, à demi abrité sous ma toile de tente, imprégné du poids des frondaisons qui partout me surplombaient et m'offraient ce ciel ami, gorgé de sève assoupie. Le consensus s'était fait dans le recueillement de soi, qui seul ouvre aux autres. Mais il fallait encore quelqu'un pour que le fait soit dit. C'est à ce moment seulement que je vis Elzéar, si discret tout au long du débat, et vers lequel se tournaient tous les regards, emportant ainsi le mien. Vous n'avez pas de roi, leur dit-il, mais vous êtes le royaume du temps. Vous n'avez pas de drapeau, mais vous êtes les couleurs de la vie. Vous n'avez pas d'hymne, mais vous êtes le chant du monde. Vous n'avez pas de devise, mais vous êtes le verbe de la terre. Vous êtes une forêt que tout menace, mais que rien ne peut atteindre, car les symboles sont hors de portée. Le subtil toucher de la brume m'éveilla. Les yeux encore clos, je sentis la marée de la nuit se retirer, tel un souffle qui s'esquive et qui me laissa seul face à mes songes. J'ouvris les yeux brusquement, comme pour surprendre l'interdit. Vide était la clairière, mais déjà débordante du sourire de la création.